Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et ravi de vous retrouver à l'écoute de Radio Foot International sur la radio mondiale RFI qui vous parle de football ces prochaines minutes. Et nous allons commencer par la Liga J-2 pour le championnat espagnol qui reprend samedi. Alors sans ces grands clubs, encore en vacances, mais nous ferons un état des lieux. Comment va le champion sortant, le Real Madrid bien sûr. Comment va sa star belge, surtout la star arrivée l'an dernier. Et aurons-nous encore un mano à mano cette saison entre le Real et le Barça? Ou bien un club pourrait-il troubler ce duel au sommet de la Liga? Le rebond de l'ancien gardien du PSG, Alphonse Areola, jouera en Première Ligue la saison prochaine dans les cages du club de Fulham, qui revient en première division anglaise. Une nouvelle aventure pour oublier que le PSG l'a oublié. Vincent Labrune, nouveau président de la Ligue de football professionnel. L'ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille a devancé le favori Michel Denisot et sera donc responsable en ces temps troublés du championnat de France. Ses premiers mots, il désire l'unité du football français et il veut fédérer autour de ce football français. Pour évoquer ces sujets du jour, nous avons un joueur du PSG, un ancien bien sûr, Eric Rabessandratana, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Il y a aussi Gilles Verdez qui est là, bonjour Gilles.
Bonjour.
Merci d'être là aussi avec Chérif Guémo, notre camarade de SoFoot, bonjour Chérif.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
David Finzel est là, bien sûr, fidèle pour préparer cette émission, alors que Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
La meilleure Liga del Mundo.
Leo Messi, encarando la portería del Levante para cruzar ese balón y marcar el segundo para el Barça. Gol, 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 gol.
Avec un premier classico en ligne de mire, Barça-Real programmé au Camp Nou le 25 octobre prochain. Le championnat d'Espagne reprend donc ce week-end. Alors, pas dans la meilleure ambiance, il y a un conflit entre la Fédération espagnole et la Liga. Ils se font la guerre au sujet des calendriers. Souvenez-vous d'ailleurs, l'an dernier, ça avait commencé avec cette histoire de Javier Tebas, le président de la Liga, qui voulait aller faire jouer des matchs du côté de Miami. Et ils ne sont toujours pas d'accord pour étaler les matchs autour du week-end, entre le samedi et le dimanche, c'est-à-dire du vendredi au lundi soir. Il y aura d'ailleurs une réponse de la justice début octobre à ce propos. Résultat, le premier match qui devait être Grenade Atlético Bilbao sera finalement Eibar Celta Vigo samedi à 14h en temps universel. La saison s'était achevée à la mi-juillet, après les restarts, comme on les a appelés, après ces reprises de championnat post-pandémie. Et on avait assisté au sacre du Real Madrid. Comment se présente le champion d'Espagne au seuil de la saison nouvelle, qui, précisons-le, comme donc pour le Barça, l'Atlético, le FC Séville, ne commenceront qu'après la deuxième journée. Et d'ailleurs, pour le Real, ça sera au Betis Séville. En tout cas, il semble qu'il y a déjà de la tension autour du Real Madrid. Et c'est ce qu'assurent les unes aujourd'hui de AS et de Marca, les deux journaux sportifs de Madrid. C'est au tour de leur star recrutée l'an dernier. Et souvenez-vous, justement, un indice, c'était le 5 octobre 2019.
Fede Valverde, toujours vers l'avant.
Oui.
Tout le temps, et là encore, il va bien jouer.
Valverde
avec la passe pour Eden Hazard, le duel.
Salut.
Le deuxième but pour le Real Madrid, Eden Hazard, la première réalisation du Belge avec les Madrilènes. Là aussi, ça va lui faire un bien fou. 2-0 pour le Real grâce à Hazard.
Première et unique réalisation sur la saison pour Eden Hazard à Bernabéu. C'était contre Grenade. Seulement 21 matchs d'ailleurs pour lui. Alors évidemment, c'est pas seulement une mauvaise volonté, à cause de blessures graves même. Le transfuge de Chelsea, en tout cas tellement désiré par Zinedine Zidane, a-t-il déçu et peut-il ne pas décevoir cette saison, Gilles Verdez?
La première question, oui. Peut-il ne pas décevoir? Oui, mais ça commence mal.
Ça a mal commencé.
Ah oui,
ça recommence mal.
Ça recommence mal parce que alors il était avec la
Pourquoi
Belgique.
Il a une, oui.
Comme il a pas joué les deux matchs de la Belgique, le Real dit, mais qu'est-ce qu'il fait à rester là-bas alors
son sélectionneur dit, il peut pas jouer 90 minutes.
Ah oui, alors le Real dit, comme il n'a pas joué du tout, qu'il revienne chez nous s'entraîner. Donc, sous-entendu, il n'a pas très envie d'aller en club. Il préfère rester à ne rien faire en sélection. Vous imaginez l'ambiance à... on a l'impression d'un nouveau Gareth Bale.
Sa sélection, ça fait 10 mois qu'il l'avait pas vu.
Oui, on a l'impression que c'est un nouveau Gareth Bale. Donc, il y a de problèmes relationnels au Real avec les stars. Heureusement qu'ils sont champions parce que la saison commence de manière, je dirais, chaotique.
Chérif Guémour, est-ce que vous pensez aussi qu'on doit faire un parallèle avec Gareth Bale? Gareth Bale quand même un peu borduré, oui, aussi par certains de ses entraîneurs, hein, et notamment Zinedine Zidane. Mais Gareth Bale qui maintenant est tellement provoquant qu'on le voit...
On sait même plus s'il est footballeur ou golfeur.
Voilà, hein, exactement.
Bale. Non, mais très, très
qui s'amuse en mettant un masque sur ses yeux quand ses coéquipiers jouent. Enfin, il y a des petites provocations quand même.
Non, mais lui, il rêve de repartir en Première Ligue. C'est évident maintenant pour en venir à...
Il partira peut-être d'ailleurs, hein. Il y a des rumeurs qui disent que le Real veut s'en débarrasser.
Ah oui, c'est sûr. Mais c'est pas fait. Mais bon, mais sinon, pour en venir à
Eden Hazard,
c'est une déception absolument gigantesque. Bon, après, il y a un petit manque de respect de Eden Hazard. Quand il est arrivé, il avait des kilos en trop et il les a gardés un bout de temps.
Il paraît qu'il les aura encore repris.
Ouais, le problème, c'est qu'en fait, il ne retrouve pas son football. Alors, le problème...
Lui ne retrouve pas son football ou on pense à Griezmann où on dit...
Griezmann, c'est autre chose.
Totalement différent.
Griezmann, il est en forme, on peut compter sur lui, il est au pressing, il se dévoue vraiment pour le Barça, sportivement et je veux dire même physiquement, en esprit, Griezmann est là. Eden Hazard, on ne sait pas.
Est-ce qu'Eden Hazard a alors été fait pour le Real?
Moi, je pense que oui au départ. La question, c'est est-ce qu'il n'est pas arrivé trop tard?
Vous savez pourquoi je parle de Griezmann? Parce qu'on se souvient que pendant un moment, un an avant, on a dit qu'il partait. Et puis, il y a eu ces problèmes de Chelsea qui ne pouvaient plus recruter et tout. Et du coup, il est parti plus tard, un peu à l'image de Griezmann. C'est pour
plus
ça que je faisais
allusion. Plus tard ou trop tard? C'est la question qu'on s'est posée. Elle se pose
toujours, je pense.
Et alors, ça pose un gros problème aussi au niveau de la gouvernance du Real de Madrid parce que Zidane a fait des pieds et des mains pour acquérir Eden Hazard. Ça n'a pas très bien marché. Du coup, le dossier Pogba, vu de la direction, notamment du côté de Florentino Pérez, c'est un peu, écoute, Zinedine, tu es bien gentil.
L'un ou l'autre.
Voilà, tu as fait des pieds et des mains pour avoir Hazard. On te l'a offert. Maintenant, tu réclames Pogba. Non, je veux dire, les finances ne
il
sont pas...
Il a moins de crédit, en fait.
Voilà, il a moins de crédit. Et c'est, mais
le crédit financier.
Crédit financier. Non, non, on peut faire un effort. Le Real peut faire l'effort d'acheter Pogba, d'autant plus que bon, il en a marre. Maintenant, il le dit, il va aller autre part.
Cette saison est plus difficile, chérif. Hein. Le président a dit, nous n'avons pas de liquidité,
absolument
pas de folie.
Absolument.
Covid.
Voilà. On y viendra sur la Liga et ses dépenses.
Le cas hasard n'a pas rangé les affaires de Zidane.
Ouais.
C'est
alors,
incroyable, parce que je disais justement.
Je voudrais le regard d'un footballeur sur hasard, est-ce que l'adaptation, il lui faut vraiment un an. Est-ce que vous trouvez que le fait qu'il arrive un peu trop avec quelques kilos en trop, c'est pas très grave?
Si, c'est gênant. C'est quand même gênant. Dans le travail, c'est gênant parce que forcément le poids supplémentaire joue sur le côté musculaire, sur le côté fatigue, sur le côté récupération.
Peut-être
donc
sur
tout ça,
blessures.
Ça rentre en compte, c'est sûr.
Ah oui, bien
sûr. Ah ça, c'est sûr et certain. Le poids en plus a certainement généré ces blessures. Qui n'a pas facilité son intégration. Alors après, il est peut-être arrivé un peu léger aussi dans la tête, en se disant voilà, je suis un petit peu le joueur qu'on a fait venir pour faire la différence. Et puis malheureusement, tout ça en même temps a fait que ça a été compliqué. Alors quand je disais tout à l'heure pour Zidane qu'il avait pas de crédit, il a quand même gagné le championnat.
Heureusement.
C'est quand même énorme, surtout quand on voit que le Barça était devant au départ et que voilà, il y a eu un retournement de situation qui est quand même exceptionnel.
En fin de saison.
Donc du coup, si il a du crédit, maintenant c'est vrai que financièrement, ça va être compliqué pour le Real. Bale, pour revenir sur Bale tout à l'heure, mais ça fait déjà un moment qu'il devait partir, mais l'année dernière il devait partir et début de saison, s'il joue pas, c'est lui qui fait la différence au début de saison, c'est quand même extraordinaire pour un joueur qui est au placard. Donc on se dit, c'est quand même, donc oui, il doit partir.
Qu'on voulait pas payer le prix de Bale alors que maintenant il serait prêt à le brader vraisemblablement. Puis il y a James Rodriguez aussi qui
est
parti.
C'est vrai.
C'est-à-dire que Bale devient un poids. Il n'est plus seulement un poids financier, il pèse dans le vestiaire, presque il met de la mauvaise ambiance.
Et il pèse sur l'image aussi.
Surtout.
Parce que, je veux dire, les images.
Après, je pense qu'il fait ça pour partir aussi.
Oui, sur un match, on voit tous circuler sur les réseaux sociaux Bale qui se moque carrément du club, pas forcément de ses copains.
C'est un vecteur négatif.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que pour le club, pour lui-même, donc il est en rupture, mais lui, il dit tranquillement, payez-moi et je pars. Mais c'est ça le problème.
C'est là qu'elle est la provocation.
Mais oui, pour Hazard, on n'en est pas encore là. Le problème d'Hazard aussi, un problème quand même footballistique, parce que Hazard, c'est un joueur décisif. Rupture, élimination, explosivité, passe décisive. Quand il a plus ses capacités d'accélération, quand il peut plus éliminer son adversaire direct, Hazard, c'est un peu déliquescent au sein de l'équipe.
C'est pas un grand dribbleur, il peut pas s'appuyer sur des... Voilà,
c'est ça, son influence diminue, et du coup on se demande
il est bon au pressing aussi, il était utile, mais... Tout ça, toute la gamme de qualité que tu viens de décrire, il ne les
il
a plus.
Il a perdu.
Ah, moi, je suis inquiet. Moi, depuis un an, moi, je le dis. Ouais. Depuis un an, je me demande si on n'a pas perdu Hazard. Définitivement, allez, on va se laisser encore un peu d'espoir parce qu'il a quoi, 29, 30 ans. Mais je suis inquiet. Je suis inquiet vraiment.
Est-ce qu'il a vraiment été très décisif à un moment donné? C'est-à-dire qu'on attend beaucoup d'Hazard depuis longtemps. Est-ce qu'il a vraiment fait une grosse saison pour dire ah ouais c'est le joueur
à Chelsea hein.
Quand il arrive de Lille à Chelsea, il est quand même un joueur.
Bien sûr.
Le dernier titre de Chelsea, il est décisif. Oui. C'est lui qui fait gagner Chelsea. Ah, oui. On est bien d'accord.
Oui.
Et après, c'est le déclin. Une super Coupe du Monde avec la Belgique. On est entièrement d'accord. Enfin, contre le Brésil, il est stratosphérique. Et après, c'est un lent déclin, des blessures, des points trop.
Et c'est presque amusant, vous parlez de la Belgique, mais qui on voit maintenant sur les feuilles de match quand on regarde l'équipe de Belgique? On voit Hazard, mais c'est pas lui, c'est son frère, Thorgan.
Mm-hmm. Ah, qui est bon?
Oui,
qui est bon,
bien
qui
sûr. On voit plus Eden Hazard.
Juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Annie, sur le fait qu'il soit en sélection et qu'il joue pas et que Zidane demande son retour, mais c'est complètement normal. C'est complètement normal. Il doit pas rester en sélection, même si on sait que la sélection a la priorité au départ sur le club. Dans cette situation, il a aucune raison de rester là-bas, et au contraire, de le faire travailler, ça va lui faire gagner du temps. Tandis que là, de rester avec les joueurs et de pas jouer et d'être un peu...
En plus, il y a eu une chose, c'est que Thibaut Courtois, le Belge, gardien de l'équipe de Belgique, lui est rentré à Madrid après le premier match.
C'est cet écart de comportement qui a suscité l'amplification de la polémique qui était déjà là. Par rapport à ce que dit Eric, le règlement est quand même du côté de la Belgique et d'Hazard. Il n'est pas contraint de partir.
C'est la priorité là.
C'est un choix moral. Que fais-je là? Est-ce que je dois partir? Mais sinon, réglementairement, il n'avait pas de raison de quitter la sélection. Peut-être aussi qu'en sélection, il retrouve une sorte de fraîcheur morale, que la rédemption pour Hazard passe peut-être par un euro à venir réussi. C'est peut-être sa bouée de sauvetage pour Hazard à ce moment-là.
Il y aura eu une saison.
C'est un des tauliers de la sélection. Oui. En effet, il se sent bien. Après, maintenant, pour en venir dans le cadre plus général.
Oui. Parlons de
Il y a quand même Marcelo, Carvajal, Ramos, Kroos, Casemiro, Modric. Il y a toute cette génération.
Les cadres.
Elle commence à prendre de l'âge. Là. Alors, est-ce qu'on est en fin de cycle? Est-ce qu'on va débuter? C'est vraiment la saison de tous les périls, de tous les dangers pour Zinedine Zidane. Parce qu'il y a toute une génération. Et il va falloir qu'elle passe la main. Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est un peu plus tard?
Il n'a pas
mais
le choix.
De toute façon, mais on fait comment?
Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas le choix. C'est que
qu'il n'a pas d'argent.
Ouais. Il n'a pas d'argent. Donc, il passer la main cette année, c'est quasiment impossible. Tu es obligé de t'appuyer encore sur ces joueurs-là.
Ils ont recruté quand même ces derniers temps. En dehors de Hazard, il y a Militao qui est arrivé, le Brésilien. Et puis il y a aussi les joueurs que Zidane dont Zidane fait la promotion, les jeunes quand même. Ils ont Vinicius, qui est toujours là. Il y a Rodrigo. Toujours Asensio.
Il y a un effectif de qualité. Mais
devant, je suis pas inquiet.
Tous ces joueurs arrivent en fin de cycle, ça c'est sûr.
Le risque, c'est que dans l'esprit de tout le monde, sauf peut-être de Zidane qui est un combattant, ce soit une sorte d'année de transition en attendant, non pas Godot, on l'espère pour eux, mais Mbappé, n'oublions pas quand même que le rêve de Zidane c'est Mbappé.
C'est programmé,
Pogba, donc que cette année soit un peu émolliente en attendant mieux. Mais le problème, c'est qu'au Real, s'il
on
a 4 matchs nuls,
après,
c'est pas possible.
Voilà, c'est
oui,
ça.
Mais alors,
on
oublie de dire. Ils sont champions.
Donc
j'allais dire la transition sera peut-être plus facile parce qu'ils sont champions.
Vous me faites une bonne transition et j'arrive, je reviens vers vous. Ouais. Peut-être aussi que le Real. On se souvient que l'année dernière, les deux clubs Real et Barça avaient bizarrement commencé la saison en Liga. Hein. Ouais. Ils n'étaient pas au top au départ. Ils ont mis du temps un peu en diesel. Les deux en même temps, ce qui fait que ça avait permis de conserver ce mano à mano. Est-ce que là, Chérif, le fait que le Real, que le Barça on a des nouvelles un peu bizarres ces derniers temps. Donc, mais ils ont gardé Messi, il y a Griezmann, tout ça et tout. Est-ce que ça peut pas aussi et encore profiter à ce Real qu'on sert pas très bien?
Alors déjà, on va repartir sur au point de départ. On va attendre déjà jusqu'au 5 octobre, la fin du mercato. Il peut se passer beaucoup de choses et qui vont peut-être contredire tout ce qu'on dit aujourd'hui. Mais en effet, mais c'est en fait ils ont les mêmes problèmes que ce soit le Real ou le Barça. Faut pas oublier que le Barça, il y a 6 joueurs de plus de 31 ans. Il y en a un qui part pratiquement sur ses Suarez. Après le reste, on les garde, on les fait jouer, ce qu'ils jouent un peu. Alors peut-être avantage Real en effet, mais moi je pense que quand même il y a une chute qualitative. Alors jusqu'à quel point on sait pas, mais de toute façon ils étaient pas en demi-finale hein, ces clubs là donc de Ligue des Champions. Après c'était une Ligue des Champions particulière. Les effets du Covid, on les connaît pas encore, le mercato on le connaît pas encore. Pour moi c'est deux équipes vieillissantes
le côté
qui sont
Messi,
en train de
on connaît pas encore la suite aussi parce que
alors ça par contre ça moi je trouve ça passionnant parce que il est obligé de rester. On a vu que Koeman est bien décidé à faire briller Griezmann, ça c'est plus une bonne nouvelle pour lui. Mais alors, comme ils sont un peu dans le même secteur de jeu, on va voir si Messi est capable de se réinventer dans un nouveau système qui fait qu'il sera peut-être pas à 100%, comme on en avait dit avant, au cœur du système.
Griezmann a peut-être une baguette magique hein, pour faire cohabiter les deux.
J'allais dire, parce que est-ce qu'on imagine Messi passer numéro 2 alors que j'ai du mal à imaginer ça quand même.
Non, mais ils le diront. En tout cas, même s'ils
ils le diront jamais, c'est sûr.
Ils le diront jamais.
Non, mais pareil.
C'est Gilles, c'est vrai mano à mano ou pas?
Mano à mano, j'en suis sûr, mais mano à mano, je suis assez d'accord avec Chérif, peut-être moins prestigieux, glorieux, c'est-à-dire qu'il y a un affaiblissement général. Il y a que ces deux clubs-là, parce que l'Atlético, c'est pareil. Le renouvellement de l'Atlético, on l'attend depuis 3 à 4 ans, il vient pas. Les autres clubs, ils brillent parfois dans d'autres compétitions, mais en championnat, ils sont trop irréguliers.
Outsider, FC Séville, qu'on a vu.
Alors justement, ce FC Séville, parlons-en.
Jamais vu dans l'histoire, 6 finales disputées, 6 finales remportées.
Victoire sévillane au terme d'une finale qui aura pris son temps pour choisir son vainqueur.
Diego Carlos, impressionante chilena.
Voilà ce FC Séville qui est toujours bien le vainqueur de la Ligue Europa quand on cherche. C'est eux qui ils ne doutent de rien. Ils avaient terminé quatrième l'année dernière. Ils sont donc en Ligue des Champions. Et effectivement, devant, il y avait traditionnellement Real, Barça et puis l'Atlético. Est-ce que là, le FC Séville, Gilles, peut enfin donner un coup de poing?
Ils termineront troisième au mieux, mais sans doute quatrième. Mais oui, c'est comme ça parce que ils sont irréguliers. C'est vraiment une équipe de coupe. Alors, très bonne en coupe. Franchement, là, la démonstration, passionnante, palpitante. Sur un match, ils sont capables de renversement de côté.
Engagement total.
Même dans le championnat, des fois, ils déversent et ils renversent.
Sur une saison complète. Voilà. Et donc, sur une saison complète, je crois encore que ce sera un Barcelone de Real ou l'inverse.
Ils ont un jeu très, très exigeant. Alors, c'est magnifique, hein, la finale contre l'Inter.
Lopetegui,
non, mais c'est... Comme ça joue, c'est extraordinaire. On voit Jesús Navas, c'est quoi? Il a 33, 34 ans. Il défend. Ils sont tous comme ça. Ils sont tous en mouvement. C'est magnifique.
Au Campos, Marseillais.
Oui. Puis même le Koundé qu'on a laissé partir de Bordeaux. C'est une équipe absolument merveilleuse et je suis d'accord avec Gilles. C'est une équipe de coupe, c'est-à-dire sur un match ou un
de
match.
De coupe et de coup, donc.
Oui. Mais sur la distance, le championnat, c'est-à-dire être régulier tout le temps. Et comment dirais-je, surtout avec une grosse intensité telle qu'ils sont capables de le montrer, intensité collective. Après, ça reste un outsider.
Mais pourquoi c'est parce qu'ils n'ont pas les reins assez solides financièrement et que ça en découle sur une constance sur la saison.
Parce que la qualité, elle aussi, attention, c'est une différence de qualité quand même. Quand on compare avec le Real et le Barça, il y a quand même une grande différence de qualité. Donc après, voilà, c'est vrai qu'elle est capable elle a de la qualité, mais elle est capable de faire simplement des coups et pas être régulière sur un enchaînement de matchs.
Ils attendent les gros, ils marquent des points.
Voilà, c'est ça. Par rapport au Real, ils ont à peu près 6 attaquants de grande valeur. Bon, évidemment, avec Benzema qui est au-dessus, mais bon, quand on fait rentrer un Isco, un Rodrigo, un Vinicius. C'est quand même plus complet, plus costaud au niveau de profondeur de banc que le FC Séville.
Par contre, elle peut jouer les troubles faits sur justement le Real ou le Barça qui sont pas à 200% et qui elle peut accrocher un peu ses équipes sur des affrontements directs, ça peut être pas mal.
Exactement, et aller jouer là-bas à Séville dans leur stade, c'est chaud hein.
Oui, mais le problème c'est que à l'extérieur, c'est déjà moins brillant. Et puis surtout, vous avez, Chérif parlait de profondeur de banc, vous avez une déperdition assez rapide. C'est-à-dire que le remplaçant à certains postes, ça va. Mais au fil de la saison, en janvier, février, quand les blessures s'accumulent, là, vous perdez énormément. Et puis, vous avez aussi des joueurs qui choisissent un peu leur match. Quelqu'un comme Ocampos, par exemple, c'est pas quelqu'un qui va briller sur toute une saison. C'est une équipe qui, à la fois, par le coaching de son entraîneur, l'intensité, le profil des joueurs, à mon avis, ne peut pas, sur la durée d'un championnat, venir glaner un titre.
En plus, cette année, ils jouent la Ligue des Champions. C'est pas la Ligue Europa. Donc,
ça prend de l'énergie.
Peut-être de l'énergie. Ceux qui ont terminé cinquième pourraient-ils jouer les troubles faits? En tout cas, eux, ils viennent de changer d'entraîneur. Le reconnaîtrez-vous?
Good afternoon. Good afternoon. Good evening.
Good evening.
Good afternoon.
Hi, I am Unai Emery. Now I am watching English series.
C'est très important la concurrence. C'est important des bons joueurs pour position. C'est qui est le joueur qui est meilleur pour jouer. Je veux une équipe plus être compétitive.
Eso lo sienten los jugadores cuando lo hacen, ¿no? Es como una consecución de lo último máximo, ¿no? Es hacer gol.
Bueno, il parle mieux espagnol.
Votre mansuétude légendaire, Annie, là, elle se fracasse sur l'hôtel
d'Unai Emery. C'est Laurent Salerno, mais qui l'a fait à ma demande.
Ça m'étonne pas de lui, oui.
Non, on est à la fois méchant, mais on se souvient de toutes ces conférences de presse.
C'était drôle,
au long de toutes les années, voilà, au Paris Saint-Germain et ensuite du côté d'Arsenal, de cet entraîneur qui tombait un peu du ciel et qui venait justement du FC Séville où il avait gagné toutes ses Ligues Europa. Malheureusement, on a vu que peut-être pour d'autres défis, il n'était pas tout à fait au niveau. C'est bien de retourner chez lui, peut-être, et de se ressourcer là-bas dans tous les sens du terme, Eric Rabessandratana.
Ouais, je crois qu'il n'avait pas spécialement le choix. Hein. Oui, il a été très bon en Espagne, donc revenir aux sources et remarquer des points, j'allais dire sur
tout start again.
Ouais, non, voilà. Après, faut le respecter. Il a pas eu des résultats au hasard. C'est pas. Faut respecter son parcours. Maintenant, c'est vrai que peut-être la marche était trop haute.
Il était quand même un peu viré à chaque fois.
Ouais. Non, mais après, la marche était peut-être certainement trop haute pour lui. Ces deux clubs, mais après voilà, il a le potentiel pour gérer des équipes qui vont devoir se battre sur un championnat.
Il y a des belles choses dont on se souvient avec lui. Alors je parle pas de la remontada, mais du match aller contre le Barça. Je me souviens aussi quand il arrive avec Arsenal, où au début ça a été très bien.
Globalement, grand entraîneur d'équipe moyenne et petit entraîneur de grandes équipes.
C'est ça.
Donc
c'est long une carrière d'entraîneur. Hein.
Ouais, c'est long, mais globalement là, ça fait quand même deux fois où il se heurte aux réalités de l'ego, notamment des très grands joueurs. Et ça, il a un problème.
Bon, à Paris, il a pas tellement été aidé, je pense, par la direction. Mais par contre, Arsenal, on a vu les limites parce que c'était. Il a pas fait revenir.
Il a pas été maltraité non plus par la direction. Je crois qu'il a fait son truc et puis après, ça n'a pas spécialement fonctionné.
Pour en venir à Arsenal, il a pas réussi parce qu'on lui demandait pas de gagner le championnat avec Arsenal. Remonter Arsenal à son niveau qui était avant, c'est-à-dire en gros dans le Big Four, jouer régulièrement en Ligue des Champions, il est pas parvenu.
Paris l'avait pris parce que c'était un entraîneur de jeu. J'ai un projet de jeu, avait-il dit. Voilà ma griffe. Et cette griffe, on l'a tout petit peu vu à Paris.
Ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure, Gilles, c'est-à-dire il s'est heurté à des stars qui
absolument
voulaient pas rentrer dans son jeu.
Mais oui, réfractaire à son projet. Et Arsenal, il a pas imposé sa griffe. Les traces sur le au niveau du jeu Arsenal, qui est une équipe réputée pour jouer, depuis Wenger, pas avant. Avant c'était le boring Arsenal, mais qui est réputée pour jouer, mais on l'a pas vu.
Alors cette Liga, elle a gardé Messi.
Oui.
Elle a aussi quelques autres stars, genre Zidane, qui est quand même une grande star sur le banc. Mais on a en face une première ligue qui vient de recruter. Et alors, on voit du côté de Chelsea plus de 250 millions d'euros dépensés pour beaucoup de joueurs. Alors, en devenir, Werner ou Ziyech. À Everton, on vient de recruter James notamment. Et puis, du côté de Liverpool, on a Liverpool et Klopp et toutes les stars championnes. Manchester City et Pep Guardiola. On va avoir Leeds et Bielsa cette saison. Il y a des rumeurs aussi, Upamecano, Sancho, Koulibaly qui pourraient arriver. Est-ce que la Première Ligue est devenue plus attractive autant pour les joueurs que pour les entraîneurs, que la Liga, qui était ces derniers temps le championnat attractif d'Europe, Gilles.
Pour moi, oui. C'est-à-dire que cette année, il y a le marché des stars est un peu mou, mais oui, le marché des joueurs d'avenir que vous avez décrit, il est en Angleterre. Donc à chaque fois, ils sont en pointe, quel que soit le marché. Ça fait beaucoup pour l'Espagne qui s'affaiblit. Je dirais même l'Espagne, attention, l'Italie remonte, l'Allemagne est très forte. Je pense que là, l'Espagne est en nette perte de vitesse et que la Première Ligue aujourd'hui est le championnat qui fascine.
Ben non, mais c'est surtout que financièrement, il n'y a pas de problème là-bas. Donc, pour recruter les joueurs, c'est plus facile.
Il
n'y
a pas de problème pour l'instant, je dirais, oui, parce que aussi, ils ont la crise avec le Covid. On se demande où va Everton. Donc, il y a quand même beaucoup d'interrogations. Mm-hmm. Mais en tout cas,
elle a besoin de se relancer aussi, parce que on voit qu'en Ligue des Champions, on a eu quelques échecs au niveau club anglais. Donc, elle a aussi besoin de redorer un petit peu son blason. Donc, du coup, elle a les moyens pour amener du monde, parce qu'elle a quand même l'attractivité et les droits télé qui sont quand même assez exceptionnels là-bas.
Oui,
du
sauf
coup,
qu'ils viennent de perdre un énorme contrat en Chine avec une télévision, on en avait parlé la semaine dernière, la PPTV, à qui finalement il y a eu une rupture de contrat. Donc, mais je parlais de l'attractivité au point de vue des grands noms, tant des joueurs que des entraîneurs. Sheriff Gamour.
Non, mais tout à fait. Bon, déjà, la Première Ligue, de toute façon, reste numéro un. Ce qui avait un peu rééquilibré un peu les choses, c'est que ces dernières saisons, avec les victoires en Ligue des Champions du Barça et du Real Madrid, et évidemment, toujours avec les titres du FC Séville en Europa League, faut pas oublier quand même qu'on a eu des fois des années avec deux victoires en Coupe d'Europe des clubs espagnols. Ça équilibrait un peu le débat au niveau de la puissance sportive. Je dirais même que sportivement, je pense que le foot espagnol était devant. Et là, ce qui se passe, c'est que ça fait deux saisons maintenant que la Ligue des Champions, c'est Liverpool, c'est le Bayern. Le foot espagnol de club recule, même si le FC Séville a gagné, mais si l'Europa League, c'est secondaire. Et au niveau de l'attractivité, on en parlait la dernière fois, par exemple, comment reconstruire, par exemple, le Barça ? Les meilleurs joueurs ne vont pas aller au Barça. Ils vont aller fatalement en Angleterre. On ne va pas renforcer. J'avais cité la dernière fois les défenseurs les plus en vue actuellement du football actuel dans n'importe quel pays. Soit ils sont en Angleterre et ils vont y rester, soit ils sont pas en Angleterre et ils vont y aller. Ils vont pas aller au Barça.
Est-ce que l'Italie, Gilles, ferait même concurrence maintenant avec on a une Serie A, qui a Cristiano Ronaldo, où vont aussi certains joueurs actuellement. Est-ce qu'elle pourrait même concurrencer la première ou deuxième place de cette Liga?
Italie, Allemagne peuvent se positionner derrière. L'Angleterre en 1 et la place de numéro 2 est à disputer. L'Italie est encore à mon avis un peu en retard parce que les très grands joueurs qui y vont sont des joueurs, non, ils sont pas en fin de carrière, Cristiano Ronaldo, mais ils sont dans la deuxième partie, sur le versant peut-être un peu descendant de leur carrière. Il y a pas encore il y a Ibrahimovic par exemple, c'est l'exemple pour moi.
Il y a pas
la future star Mbappé, il va pas aller en Italie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas que lui, mais voilà, Neymar va sans doute pas aller en Italie quand il partira. Fait pas rêver encore, mais ça redevient crédible.
Même si toute la sélection italienne ou pratiquement actuellement joue en Italie justement.
Oui,
mais ça peut redorer le...
On est arrivé à l'inverse, c'est-à-dire que aujourd'hui la locomotive du football italien, c'est la squadra, c'est la sélection nationale. Le problème de l'Italie, c'est la Serie A n'a jamais été aussi forte quand elle avait, un peu comme en Angleterre, un big four, un top 4. Oui. C'est-à-dire avec les deux clubs milanais, Rome et Napoli, en gros, ces dernières saisons.
Et la Juve,
évidemment. Suis-je bête. La Juve, donc un top 5, carrément un top 5. Quand on a ces 5 locomotives qui brillent, qui sont attractives au niveau des joueurs, parce qu'un bout d'un, il n'y a pas si longtemps, il y a encore beaucoup de joueurs français, Pjanic par exemple, bref. Ils ont perdu le top 5. La Juve est encore là, elle est encore compétitive, elle fait partie du top 5 européen sans problème. Enfin, je veux dire, elle est au sommet. Mais alors, le reste, ils sont où? Le Napoli, c'est irrégulier, la Roma, c'est irrégulier. Il y a l'Atalanta qui arrive, mais est-ce que ça va durer? Et voilà, tant qu'on n'a pas une attractivité au sommet avec un peloton
de régularité,
voilà, c'est ça.
Et c'est vrai que
L'Espagne reste devant pour moi.
Gilles, un petit mot encore?
Alors oui, pour revenir à la répartition globale, le point fort extrême de l'Angleterre, que n'a pas encore l'Italie, c'est le marché intérieur. C'est-à-dire qu'en Angleterre, vous avez les clubs qui achètent des joueurs anglais pour des fortunes. Le marché n'a, à la limite, ils pourraient fermer leurs frontières, ce qui est une tendance chez eux quand même, ils pourraient s'insulariser encore davantage, que le marché serait encore là parce qu'ils s'achètent entre eux des joueurs. En Italie, par exemple, c'était vrai vrai en Allemagne, mais les Allemands commencent à s'exporter. En Italie, il n'y a pas encore ces énormes transferts de club à club qui font les montants sont extraordinaires. C'est encore un point faible pour moi.
Et au niveau de la formation, de plus en plus de clubs italiens, il y a de moins en moins de joueurs italiens qui jouent. Ça aussi, c'est un problème au niveau de la relance. Enfin, au niveau de la sélection, quand on regroupe tous les talents, ça fait une excellente sélection, mais qu'un bon entraîneur. Mais la Juve, faut compter les Italiens maintenant. Des fois, il y en a deux maximum. Quoi.
Alors où placer le championnat de France? On sait qu'il essaye de se rapprocher dans les cinq grands championnats européens. Et justement, on va s'y arrêter à ce championnat de France.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
Parce qu'aujourd'hui, je pense que vous le saviez, il y avait comme un lever de rideau de PSG-OM. aujourd'hui, ça se déroulait dans les locaux de la Ligue de football professionnel et c'est l'OM qui a gagné. Je suis désolée, Eric Alexandre Attala. Non, plus sérieusement, c'était l'élection à la présidence justement de la Ligue professionnelle. Alors, on avait un classique entre deux candidats face à face. Ancien président du PSG, c'était Michel Denisot, et l'ancien président de l'OM qui était Vincent Labrune. Eh bien, c'est Vincent Labrune qui l'a emporté. Vainqueur du vote de l'Assemblée Générale. Il remplacera donc Nathalie Dubois de la Tour et même Didier Quillot qui était le tandem et les deux partent. Et voici les premiers mots de Vincent Labrune.
C'est un challenge que je relève avec lucidité. Je connais la complexité de la tâche avec un mot d'ordre, l'unité. L'unité nécessaire que doit retrouver le football français et toutes ses composantes. Et j'espère qu'on aura des beaux jours devant nous pour moderniser le football français, parce qu'on doit moderniser le football français, on doit être en capacité de se réformer, on doit être en capacité de retrouver une compétitivité accrue sur la scène européenne. On a plein de choses à faire, mais on doit le faire tous ensemble, avec le Paris Saint-Germain, évidemment, mais aussi avec les autres, et aussi et surtout avec les joueurs, qui sont ceux qui font rêver nos enfants, qui font venir les familles au stade, et qui doivent être des emblèmes du développement de la marque du football français et de nos produits à l'international.
On va revenir sur les propos et sur ce programme qu'il a résumé Vincent Labrune au sortir de l'élection. Mais écoutons d'abord le président de la Fédération française de football sur ce vote, parce que on s'attendait un peu tous. C'était écrit dans la presse, c'était peut-être un rêve des journalistes, puisque Michel Denisot est un ancien journaliste. En tout cas, ce n'est pas Michel Denisot, son nom, qui est sorti du chapeau. Et écoutons Noël Le Graët, lui aussi surpris.
Écoutez, je ne le connais pas très bien. Bon, je pense qu'il a beaucoup d'amis. Alors, il a bien réussi avec Marseille. Dans sa vie, il se conduit bien. Donc, il n'y a pas de... Vous avez vu, c'était très serré, parce que vous avez vu les chiffres. Il faut bien les analyser. Je crois que la majorité n'était pas forcément pour lui, mais c'est le système.
C'est le système qui a été créé par eux-mêmes, bien sûr. Oui, alors c'est vrai qu'en pourcentage, il y a une histoire que en pourcentage de voix,
Labrune en avait... Non, mais c'est 15 voix contre 10, c'est une victoire assez nette.
En nombre de voix, mais en pourcentage, apparemment, c'était différent. Collèges, mais bon, on se souvient aux États-Unis, pour dire un président aussi, il y a une histoire de système. En tout cas, c'est donc Vincent Labrune, il le connaît pas très bien, dit-il, Le Graët, mais il a quand même été président de l'OM de 2011 à 2016. Vous avez été surpris, Eric Rabessandratana. Pourquoi vous étiez à fond pour Michel Denisot?
Ouais, bah oui, bien sûr, parce que je connais le personnage. Évidemment. Et puis, je pensais qu'il était plutôt très bien pour représenter le football français. Donc, c'était plutôt un bon choix. Je pensais surtout que s'il allait faire l'unanimité, et c'est pour ça que je suis surpris. Et là, je suis vraiment surpris de voir Labrune. Alors, j'ai du mal à comprendre où ça a pu dévier sur Labrune au dernier moment, ou je sais pas.
Alors, Gilles Verdez, vous avez quelques explications.
Je crois que Vincent Labrune la voulait plus que Michel Denisot, cette victoire. Il s'est battu, il le voulait, il a fait du lobbying comme il fait toujours. C'est un homme de réseau, comme Noël Le Graët dit, il a plein d'amis, c'est ça. Il est allé voir chacun pour, non pas acheter ses voix,
mais convaincre. Mais si je vous ai bien écouté la semaine dernière, vous disiez que Le Graët, pour être élu, il faisait campagne lui aussi en allant voir tout le monde.
Absolument.
Donc il a pris la méthode Le Graët.
Absolument, c'est-à-dire qu'il s'est battu. Michel Denisot, moi je l'adore, j'étais pour lui aussi.
Il a pourtant renoncé à la présidence de son club.
Mais oui, c'est un peu, si vous me voulez, venez vers moi. Alors que Labrune, c'est, je vais aller conquérir chaque voix. Il l'a voulu plus, il incarne peut-être un football d'avenir. Et surtout, Denisot, c'était à la fois Le Graët, le PSG, ça fait beaucoup pour un seul homme. Je pense qu'il y a plein de présidents de clubs
qui le soutenaient.
C'est bon, on ne veut pas de ça.
Peut-être,
Denisot, c'est évidemment, je ne descends pas dans l'arène. Donc, non, c'est une élection. Donc, chaque élection, elle n'est jamais jouée. Deuxièmement, on va parler de l'âge quand même. Denisot, c'est 75 ans. Vincent Labrune, c'est 49. C'est important. On est dans une période de crise et non pas dans une période de pacifier. Même si, une fois de plus, c'est très, très important. Au niveau des finances de l'AFP, tout va bien. C'est avec les droits télé qui sont entrés, le naming, le développement à l'étranger et tout.
Naming, les publicités à coller.
Voilà. Mais on est en situation de crise avec le Covid.
Matchs à huis clos
les prêts d'État, qui font qu'on est dans une période d'incertitude. Et peut-être que par un réflexe de sécurité, on s'est dit bon bah voilà, Vincent Labrune, on rappelle, qui travaille dans l'événementiel, qui était quand même président d'un grand club. 5 ans à l'OM, c'est pas n'importe quoi. On en avait parlé. Quand on reste 5 ans à l'OM président, c'est que quelque part, voilà, on a du répondant. Mm-hmm. Donc il y a peut-être un réflexe sur la santé, se rassurer, se sécuriser. Et puis pour en revenir, on en a parlé, pour en revenir un peu à Denisot, il y a la petite erreur qui consiste à aller sur une grande chaîne privée. On sent pas non plus l'extrême motivation.
Il part comme journaliste chez nos confrères d'Europe 1 et ça a été annoncé hier. Donc effectivement, c'est un peu étrange.
C'est pas un signe très conquérant.
Après, Labrune, il a des qualités, sens politique énorme. C'est un homme d'influence. Donc il sait être le go-between, il a négocié des affaires et c'est un commercial.
Go-between.
Donc politique. il sait être l'entremetteur, il sait faciliter les relations entre les gens, c'est un facilitateur. Et donc ça aide parce que il y a des gens qui l'apprécient beaucoup et il sait faire fructifier ses réseaux.
Ça a marché en tout cas.
Ça a marché.
Moi, j'aimerais vous faire écouter quelqu'un qui n'avait pas une boule de cristal et qui, avec le go-between, c'est ça que vous dites?
L'intermédiaire.
Je crois que ça ne s'est pas très bien passé.
J'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol et qu'il durerait moins longtemps qu'il n'imaginait dans le football parce qu'on ne peut pas se permettre de jouer avec la sécurité des gens et faire le pitre au milieu d'une organisation où il y a 60 000 personnes. C'est effectivement irresponsable.
Désolé.
Jean-Michel Aulas.
Jean-Michel Aulas, dans le texte, alors que le désolé, c'est la marionnette de Michel Denisot, c'était son gimmick, comme on dit aussi, mais son petit mot à chaque fois que ça. Son guignol s'exprimait. Avec Jean-Michel Aulas, par contre, c'était chaud quand même, ils ont eu des relations difficiles, les deux Olympiques. Shérif.
Jean-Michel Aulas, c'est toujours s'accommoder de l'adversité. J'ai pas tellement d'inquiétude. Mais une fois de plus, c'est plus la situation de crise actuelle qu'il va falloir gérer à chaud que la. Enfin, on n'est pas dans une situation de péril financier. Mais ça, c'est super important. Donc, une fois de plus, voilà. Après, il est quoi? Ils sont élus quoi pour 4 ans?
Éric, moi j'ai une question. Alors en dehors des choses financières, qui effectivement c'est un peu l'urgence du moment, mais est-ce qu'il y a, il parle de l'unité du foot français, alors on se souvient aussi, parce que Jean-Michel Aulas soutenait Michel Denisot aussi. Or, Jean-Michel Aulas...
Tout le monde soutenait Michel Denisot, mais il était battu en fait.
Mais alors, Jean-Michel Aulas était-il aussi peut-être un poids, une enclume, parce que lui, il a demandé à la LFP, à cause de l'annulation de la fin du championnat, une somme de 117 millions d'euros pour compenser les pertes de son club. Donc tout ça, c'est de l'argent, mais on voit qu'il n'y a pas eu d'unité à ce moment-là. Il y a eu même une grande bagarre sur devait-on ou pas, et voire une coalition contre Jean-Michel Aulas, selon certains confrères, et je citerai Dominique Sévra qui nous avait raconté ça. Il parle de capacité de se réformer et tout. Est-ce qu'en dehors de tout ce qui est argent, il y a selon vous des urgences pour ce qui est du championnat de France, Éric Rabessandratan, à vous qui allez dans les stades, vous qui suivez les équipes?
Bon, de toute façon, juste pour revenir sur Aulas et Labrune, ils vont devoir cohabiter. Hein.
Oui,
ils sont dans le même système.
Mais Aulas ne sera plus à la Ligue, et la Ligue, il va rester à la Fédération.
Ouais, bien sûr, mais je veux dire, au-delà de ça, en tant que président de club, ils vont être obligés de cohabiter. Et du coup, je ne m'inquiète pas du tout sur la relation qui va exister entre les deux. Maintenant, il y a je sais pas, c'est relancer le football français, oui, mais alors comme tu disais, c'est un facilitateur. Donc du coup, peut-être qu'il a les meilleures armes pour.
Mais qu'est-ce qu'il y aurait d'urgence à faire pour vous?
L'urgence, c'est, oui. Toute façon, c'est...
Bah, déjà la relation entre les clubs et de trouver un esprit commun, mm-hmm. parce que c'est pas ce qui
ça
existe, c'est pas ce qui existe
ça
depuis. Voilà, c'est ça. C'est ça que ça a été, ça a eu. Bon, alors la difficulté d'évoluer actuellement dans le football avec les problèmes qu'on connaît entre le Covid et les matchs et tout ce qu'il y a le manque à gagner d'argent pour les gens dans le stade. Voilà, tout ça font que c'est compliqué. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses en relation entre les clubs, en décision. Oui. C'est pour ça qu'il dit on a besoin d'unité.
Et on se souvient quand il y a eu le match là, changé entre Lens et PSG, hein, qu'il y aura finalement ce soir, ce malaise qu'il y a eu. On disait que la Ligue déroulait le tapis rouge au PSG. Oui. D'ailleurs, lui, il dit avec le PSG, mais aussi avec les autres.
C'est pas un hasard, Gilles. Si c'est peut-être un président de l'OM. Il y a peut-être une frôle anti-PSG, une frôle anti-Legrette. Après, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que ce qui est indispensable au football français, c'est aussi globalement, même s'il y a parfois des intérêts divergents, le bon fonctionnement fédération ligue. Or là, vous avez Legrette qui le déjà dit, mais regardez, oh, ça
je
a été serré,
pas bien.
Je connais pas bien, il a des amis, il a pas été très bien élu, donc ça commence bien. Il faut se souvenir aussi que à la ligue là, clairement, il y a des présidents de clubs comme Montpellier, Lorient, qui ont dit non à ce qu'on veut nous imposer. On est libre, comme dans d'autres élections en France, on est libre de voter pour qui on veut. On nous imposerait Denisot. Ben non, on n'en veut pas. Ils ont choisi l'homme de l'alternative possible.
L'autre.
Souvenons-nous que la dernière fois, à un moment, Raymond Domenech avait été quelques heures ou quelques minutes président de la Ligue. La Ligue, c'est très difficile de prédire. Ce sont des gens qui ne se laissent pas dicter leur conduite.
Ce sont tous les présidents de club, la Ligue, de toute façon.
Oui,
de la Ligue 1 et la Ligue 2.
Oui.
Alors c'est ça aussi qui fait que...
C'est pour ça que c'est large.
Les axes principaux, c'est déjà évidemment donc pacifier les relations entre la Ligue et les clubs entre eux aussi, parce que ça a volé en éclat une fois de plus pendant la crise du Covid. On reprend pas. Il y avait, bref, ça c'est le boulot. Il y a quatre ans, là, de mandat, avec des moyens financiers assez conséquents, parce que ça a été... Donc qu'est-ce qu'on attend ? On attend quand même une qualité de...
Quoi, les moyens financiers.
Alors, les moyens financiers, une augmentation qualitative de la L1, parce que ça fait partie du bilan aussi. Si ça s'est développé à l'international, c'est pas non plus phénoménal.
Faire un championnat attractif, n'est-ce pas ?
Un championnat attractif, mais au niveau de la qualité du jeu, ça, il faut vraiment... Pendant longtemps, c'était la qualité de l'accueil, les stades et tout ça. On a plutôt bien bossé et tout, la qualité des familles, des abonnements et tout. C'est plutôt pas mal. On a éradiqué certaines violences, certains phénomènes, c'est bien. Là maintenant, c'est la qualité du jeu. Parce que c'est vraiment, c'est ce qu'on voit.
Là, il y a un peu plus de reconnaissance avec la Ligue des Champions.
Non, mais là,
Lyon,
il va y avoir
Paris.
De l'argent. Là, il va y avoir de l'argent. Les clubs ne pourront pas se prévaloir en disant non.
Il a raison. La Ligue 1, en plus, a brillé en Ligue des Champions.
Voilà,
alors, on y arrive. Si c'était un contexte. Et le dernier truc, c'est que, à la fin du mandat de 4 ans, on verra où en est l'indice UEFA des clubs français en Coupe d'Europe. Là, c'est bien, là, parce que bon, il y a eu des circonstances exceptionnelles qui ont fait qu'on a deux clubs en demi-finale. Mais là, il y a un cycle de 4 ans qui repart et on va voir si les clubs français progressent vraiment en Coupe d'Europe. Mais ça, c'est important.
Bon, ben nous, on sait qui est Vincent Labrune et on le suivra. On le suivra à la lettre. Peut-être qu'il acceptera notre invitation et qu'on en parlera.
Ah bah,
c'est sûr.
Mais il adore. Et alors, tout autant que Michel Denisot, c'est un homme de médias. C'est un homme qui connaît parfaitement les médias.
On vient le connaître chez nos auditeurs, donc on lui enverra une petite invitation. On continue, on termine, on va parler d'un joueur du PSG.
Ah.
Très très belle parade.
Absolutely magic from Alphonse.
Déjà une chanson en anglais pour Areola. Alphonse Areola, 27 ans, part à la découverte d'un nouveau championnat après la Ligue 1, après la Liga. Le gardien de but formé au Paris Saint-Germain va donc jouer en Première Ligue dans le club de Fulham, récemment promu en Première Division anglaise. Welcome Areola.
He talked to me and he said to me that he really wanted me. And...
Scott Parker m'a appelé et m'a dit qu'il me voulait vraiment. J'ai eu un très bon feeling. C'est très important pour moi d'avoir une bonne relation avec le coach. Et maintenant, je vais aussi devoir créer de bonnes relations avec mes coéquipiers.
Create a good relationship with my teammates.
Voilà, ses premiers mots en anglais. Il parle mieux qu'Unai Emery. Ses premiers mots sur son nouveau club. Eric Rabessandratana, est-ce que c'est un bon rebond pour ce gardien?
Je pense que oui.
Formé
je pense
au que club.
Il a c'est un très bon gardien. Faut pas le couper en deux comme on aurait pu. Il a fait deux clubs difficiles pour lui, c'est-à-dire le PSG où c'est difficile d'être maître en son pays, j'allais dire. Dans son jardin. Donc là, c'était très compliqué pour lui de réussir en tant que Titi, sortir du centre de formation. Voilà, il était jugé à chaque erreur, il était jugé comme un condamné. Partir au Real. C'était une superbe promotion, mais très compliquée à relever.
Mais on se souvient du contexte l'année dernière.
Bien sûr, hein,
on l'envoie parce qu'on reçoit Kaylor Navas sans retour, donc
c'est un peu, on se débarrasse un petit peu de
là.
Exactement.
Enfin,
c'est pour ça que je dis que là, c'est un bon choix pour lui, parce que c'est un club où il aura moins de pression. Et je pense que pour lui, ce côté pression en moins va faire que il va pouvoir exploiter à fond ses qualités, parce qu'il a des qualités, voilà. Et je pense qu'il a vraiment besoin de se relancer dans un club un peu moyen pour retrouver sa confiance.
Gilles,
je suis moins optimiste quand même, hein. C'est faut pas que ça devienne le Unai Emery des gardiens de but, c'est-à-dire pas bon dans les grands clubs et bon dans les clubs moyens, parce que Fulham en général c'est aussitôt promu, aussitôt relégué.
Oui, mais donc, il va avoir du boulot.
Mais c'est quand même pas un immense club, Fulham. Il y a eu beaucoup de joueurs français énormes. Parfois, ça a été le cimetière de leurs illusions. Donc, je lui souhaite le meilleur. C'est un contexte qui me paraît difficile et pour moi, c'est quand même une régression.
Mais c'est pas un gâchis, Gilles. PSG n'a-t-il pas mal aimé son joueur comme il malaime peut-être beaucoup des jeunes qui sortent de son centre actuellement,
Leonardo,
préférant des stars très chères.
Leonardo n'a jamais cru qu'il pouvait incarner le rôle de gardien de but numéro 1 du PSG.
Il était même en équipe de France.
Absolument, il a perdu sa place et j'espère qu'il va la retrouver, mais c'est très difficile. Fulham, c'est compliqué, hein. Il faut pas prendre des 0-4, même en faisant 7-8 arrêts décisifs. C'est compliqué, Fulham.
Oui, mais si par contre, si tu réussis, ça peut être
un
complètement différent que si tu réussis à Rennes. C'est ça le truc, tu vois. C'est qu'il y avait Rennes, il y avait Fulham. Mm-hmm, oui. Il choisit Fulham. Moi, je trouve que c'est plutôt mieux pour lui.
Alors plusieurs choses. Déjà, on va lui souhaiter de rebondir comme un certain Van der Sar a rebondi, c'est-à-dire que Van der Sar, grand gardien de l'Ajax, il est passé à la Juve, il s'est planté, il est arrivé à Fulham et finalement c'est
il avait les qualités,
donc il a pu rebondir à Manchester United. Donc on va lui souhaiter ça. Maintenant, pour en revenir à Areola, faut pas oublier que dans le football anglais, on aime bien les gardiens massifs, les gardiens
1m91.
Voilà. Donc voilà, c'est ce qui a empêché notamment pendant longtemps Loris d'aller en Angleterre. Les clubs étaient intéressés, mais ils l'ont pas fait venir. Donc là déjà, s'il y a un club anglais qui s'intéresse à un gardien français, parce qu'ils ont en général pas trop la cote, c'est plutôt bon signe. Il va à Fulham, il va être très sollicité, comme tu dis.
Il va être numéro 1.
Là par contre, on va voir.
A priori.
Ouais, mais s'il l'est. Mais partons de l'hypothèse où il va être extrêmement sollicité, et là on va le voir. Là, par contre, comme disait Gilles Verdez, c'est à double tranchant.
J'espère qu'il part pour être numéro 1. Comme si c'est pour aller en plus numéro 2.
A priori, c'est ce qu'on dit.
Sinon, il fallait à l'arrêt. Sinon, il fallait à l'arrêt. Bah, l'arrêt aurait été titulaire.
Bien sûr, j'espère qu'il a cette garantie-là quand même, parce que sinon, c'est.
Et le drame d'Areola, c'est qu'en fait, il est arrivé à un moment du PSG qui voulait vraiment s'inscrire en Coupe d'Europe et il n'avait pas l'expérience d'un Navas. Et là, quand on compare Areola à Trapp, Areola est au-dessus, peut-être, mais quand on compare Areola à Navas, il n'y a pas photo.
En plus, il a été victime de ce non-choix à un moment de qui est le gardien numéro 1, qui est le gardien numéro 2. On se souvient aussi, c'est peut-être pas que de sa faute à lui, finalement, Eric Rabessant-Guadana. Il a peut-être été victime un peu de
puis on est jugé sur un match de Coupe d'Europe. C'est à l'aller ou au retour.
Non, mais après ce non-choix dénote aussi du fait que si on prend pas de décision, ça veut dire que il a pas fait la différence par rapport à l'autre.
Oui, parce qu'ils avaient acheté aussi Trapp.
Alors que Navas, il est arrivé et il a calmé tout le monde. Il s'est dit.
Mais lui, il a un palmarès.
Navas, c'est la seule chose.
Il a un palmarès. Mais c'était avant Navas.
Le non-choix n'existe pas normalement. C'est-à-dire que en tant que gardien, vous avez un gardien numéro 1, un gardien numéro 2. Ça n'existe pas le non-choix. Donc le non-choix a été fait parce que il a pas fait la différence, tout simplement. Donc je pense que ça a existé pour ça.
En plus, de toute façon, le PSG a repris celui qu'il voulait lâcher, qui est Sergio Rico. Donc de toute façon, lui, il était là. Ouais, il n'aurait même pas été numéro 2. Il était plus ou moins numéro 2 au Real de Thibaut Courtois. C'était compliqué.
Indéboulonnable, Courtois.
On terminera en ayant quelques nouvelles. C'est du côté de la CAF qui s'est réunie ces dernières heures en assemblée générale et qui a pris quelques décisions, et notamment ce qui concerne les dates des finales continentales, des demi-finales, à cause évidemment du coronavirus et de ce qui se passe au Maroc. La Coupe de la Confédération, finalement, les demi-finales sur match unique sont repoussées au week-end du 19-20 octobre et il y aura une finale le 25 octobre. Et puis, pour ce qui est de la Ligue des Champions, demi-finale en aller-retour, 17 et 18 et 23 et 24 octobre avec une finale le 6 novembre. Le lieu de la finale du 6 novembre sera déterminé puisqu'on a des demi-finales Maroc-Égypte. On ne sait pas, sera au Maroc, en Égypte ou tirage au sort. Réponse ces prochains jours. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à ce Radio Foot aujourd'hui et on se dit à demain pour le Café des Sports.